Vous écoutez On lit pour vous.
Quoi faire, livre? 5 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. 1. L'imparfait par Eric Reingart, édition Stock 2026, 267 pages. Un écrivain décide de passer une nuit dans un musée à Rome, près de la statue de l'hermaphrodite, pour nourrir l'inspiration de son prochain roman racontant une histoire d'amour entre Gloria, une personne intersexe, et Bruno, un chirurgien-dentiste qui cherche un sens à sa vie. Le point de départ narratif réside dans une expérience réelle. L'auteur, Eric Reingart, a effectivement passé une nuit à la Galleria Borghese de Rome, au contact de la célèbre statue de l'hermaphrodite endormi, dont la disposition, qui ne permet pas de percevoir simultanément les attributs masculins et féminins, a inspiré ce roman. Le roman plonge dans le processus créatif d'un personnage-auteur, qui est également l'écrivain du livre que l'on tient entre les mains. Dès les premières pages, la frontière entre fiction et réalité se brouille, puisque les personnages semblent déjà exister, à l'état latent, dans son esprit, et avant même que ne débute la nuit d'inspiration. La narration passe ainsi, parfois, de l'une à l'autre, au détour d'un paragraphe, sans transition explicite, ce qui peut parfois se révéler déroutant, mais participe pleinement à illustrer les méandres du processus de création. Au fil des pages, l'auteur interroge les notions mêmes d'identité et de désir, notamment à travers Gloria, qui remet en cause les constructions sociales du masculin et du féminin, et de Bruno, qui est habité par un sentiment d'incomplétude. Cette remise en question se manifeste également à travers Emmanuel, une psychanalyste à la sexualité assumée et décomplexée. En tout cas, elle ne se faisait aucune illusion. Elle savait que l'homme idéal n'existait pas. Au contraire, elle pensait qu'il fallait se laisser réinventer parce que l'on se surprenait à découvrir de soi dans son propre regard posé sur l'autre, et non pas chercher dans la personne que l'on vient de rencontrer ce que l'on espère y trouver. Le livre entrelace ses récits pour explorer la fluidité du genre et la possibilité d'un amour qui dépasse les normes habituelles. Bruno est habité par un rêve récurrent depuis l'adolescence, dont il n'ose d'abord reconnaître la nature, mais qui s'impose à lui avec une intensité croissante. La rencontre avec Gloria agit comme un déclencheur qui l'amène donc à remettre en question ses a priori et à affronter ses désirs. On pourrait croire que le sujet appelle un ton très sérieux, mais Eric Reingart insuffle au contraire au texte une bonne dose d'humour, notamment en jouant sur l'absurdité de certaines situations. C'est le cas, par exemple, lorsque l'auteur doit négocier avec le musée la permission de manger durant la nuit et se voit contraint, règlement oblige, de se cacher dans les toilettes pour se sustenter. Le titre reflète l'idée d'inachèvement qui traverse les personnages, tant au regard de leurs identités que de leurs relations ou de leurs amours toujours en devenir plutôt que figés. La figure de l'hermaphrodite s'impose dès lors comme une métaphore de cet état intermédiaire puisqu'elle brouille les catégories traditionnelles du masculin et du féminin. En ce sens, l'imperfection n'apparaît donc pas comme une faiblesse, mais bien plutôt comme une force, puisqu'elle valorise une liberté accrue, le mouvement et la transformation, plutôt que la stagnation. 2. Un comptable à la cour, tome 6, par Yatsuki Wakatsu et Kazuki Hirodori, édition Akata, 2025, 165 pages. Sixième tome des aventures de Sheishiro, un comptable japonais transporté dans un univers de magie où ses talents en gestion se révèlent une force inattendue. Malgré lui, il se retrouve mêlé à des complots politiques et religieux, tout en développant une relation étroite avec le chevalier Aresh, dont la proximité charnelle est essentielle à sa survie. Dans ce nouvel opus, le récit prend une dimension plus sombre. Notre héros est la cible d'un attentat, au cœur d'un vaste complot mêlant politique, religion et magie. Une question ne cesse alors de le hanter. Pourquoi un simple comptable représenterait-il une cible ou une menace digne d'intérêt? Bien qu'il ait été projeté dans un univers régi par la magie, Seishiro demeure résolument cartésien et ne peut s'empêcher de remettre en question certains dogmes de l'Église, ainsi que des pratiques financières qu'il juge hautement douteuses, ce qui soulève l'ire de certains. Cette propension à la critique se fait toutefois au détriment de sa santé, qui se détériore dès qu'il est exposé de façon prolongée aux forces magiques, surtout lorsqu'il est privé de l'apport vital en mana qu'Aresh introduit dans son corps. Et non, ce n'est pas une métaphore. L'Église y est présentée sous un double visage, à la fois comme un lieu de refuge pour des enfants au pouvoir magique instable et comme un espace de manipulation où l'on semble chercher à modeler leurs pensées et à contrôler leurs forces. L'attentat dont est victime le jeune comptable révèle donc que, derrière les irrégularités administratives, se cachent des enjeux beaucoup plus graves, capables de compromettre l'équilibre même du royaume. Enfin, au fil des événements, la relation entre le chevalier et le comptable gagne en intensité, ce qui les amène à reconnaître que leurs interactions physiques représentent bien plus qu'un simple remède permettant de rehausser le tonus de Seishiro. Elles constituent plutôt un véritable ancrage émotionnel qui annonce sans doute une évolution importante dans le prochain tome. On peut regretter que le récit se perde parfois, surtout dans sa première moitié, dans des apartés inutiles, notamment par l'introduction de personnages qui, pour le moment, semblent peu pertinents. Cela dit, le plaisir de lecture demeure bien réel, porté par l'originalité d'un héros dont les compétences en comptabilité et en organisation se révèlent une force de combat essentielle, même dans les situations les plus périlleuses. Vous écoutez « Quoi faire, livre, 5 suggestions de lecture » de Benoît Mignot, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. 3. Retour à Laval, par Olivier Sylvestre, édition AMAC 2026, 88 pages. Au départ, rien ne laissait présager le virage qu'allait prendre ce convent homme d'une école secondaire de Laval. Invité pour animer la soirée, Lucas en profite, cependant, pour dénoncer les normes masculines oppressantes qu'il y a connues. Le texte d'Olivier Sylvestre prend la forme d'une pièce de théâtre qui commence doucement, sans laisser présager le changement de ton qui se profile en coulisses. En effet, tout bascule lorsque Lucas aperçoit au fond de la salle un groupe de garçons qui incarnent la violence et le rejet qu'il a subi à l'adolescence. D'un coup, des blessures encore vives refont surface, accompagnées d'une colère qu'il trouve enfin la force d'exprimer. Devant un public composé d'anciens élèves devenus des adultes respectés, il n'hésite pas à rappeler le qualificatif moqueur qui lui est longtemps resté collé tout au long de ses années au secondaire et même après, Tapette. Il replonge dans ses souvenirs pour rappeler ce qu'il considère comme sa faute ultime, celle qui l'a empêché de faire partie du groupe des gars. Son incapacité à se conformer aux normes de masculinité. Plus cruelle encore est la trahison de ceux qui lui ressemblaient, mais qui n'ont pas hésité à le sacrifier pour détourner l'attention sur leur propre identité et insécurité. Je devais transpirer ça. Le besoin vital de faire partie de la gang, puis surtout, la peur que vous remarquiez qu'il y avait quelque chose de pas normal avec moi. Ellipse. Je me suis mis à vous imiter. Ellipse. Sauf que je jouais mal. La force troublante de ce rejet ne tient pas tant à une violence physique qu'à l'impact plus insidieux d'une violence ordinaire. Insultes répétées, regards méprisants, isolement et peur constante d'être perçu comme différent, ainsi que les efforts désespérés pour se conformer à la norme. Mais, comme il en vient à le comprendre, avoir peur d'avoir l'air gay, c'est déjà gay. L'auteur alterne habilement entre humour et vulnérabilité, ce qui lui permet de soutenir l'intensité émotionnelle de son récit sans sombrer dans le pathos. L'histoire évoque ainsi les premières expériences positives de Lucas, notamment des amitiés sincères, ainsi que sa première découverte d'un lieu public, le cabaret chez Mado, où, pendant une soirée, personne me traite de tapette. Parce qu'autour de moi, tout le monde l'est. Un monologue intérieur puissant et percutant, dans lequel l'adulte revisite l'adolescent qu'il a été, tout en rendant hommage à toutes celles et tous ceux qui ont survécu à leur secondaire. 4. Une chambre au-dessus d'un magasin, par Anthony Chapland, édition Philippe Ray, 2026, 171 pages. M, un quadragénaire solidement installé dans sa routine, reprend la quincaillerie familiale et décide d'engager un assistant. Il rencontre alors B, un jeune homme désœuvré d'une vingtaine d'années. Entre eux s'allume une attirance, tout d'abord implicite, mais qui prend rapidement corps dans l'appartement niché juste au-dessus du magasin. L'intrigue se déroule dans le sud du pays de Galles à la fin des années 1980, en plein air Thatcher, et dans un milieu ouvrier qui est tout sauf enclin à accueillir la différence. On saisit donc rapidement toute la difficulté, pour les deux hommes, d'accueillir ce qu'ils sont véritablement, puis de vivre leur relation autrement que dans l'ombre, à l'abri d'un regard social prompt à les condamner. Leur relation se module ainsi en deux espaces physiques radicalement distincts. Au rez-de-chaussée, la boutique représente un théâtre où ils incarnent les rôles rassurants et convenus d'un patron et de son employé. Mais à l'étage, dès qu'ils passent la porte, tout change. C'est là qu'ils se permettent d'être eux-mêmes, mais à tâtons, puisqu'ils n'ont pas de réel modèle. Cette tension entre les deux mondes les enferme dans une double vie où garder le secret n'est pas un choix, mais une nécessité vitale, alors même que s'élève la menace des ragots ou de signes d'hostilité à peine voilés. Le roman frappe fort en montrant à quel point la stigmatisation est omniprésente dans l'Angleterre de l'époque, encore prise avec des lois qui musellent toute expression de l'homosexualité et avec une démonisation du VIH-SIDA qu'il associe à la corruption morale, à la peur et à la honte. C'est encore plus vrai dans un petit village ouvrier, ce qui explique aisément que leur marque publique d'affection se limite aux gestes les plus ordinaires du quotidien ou à cette montre qu'ils se sont offertes à Noël, presque comme des alliances. Personne ne sait que le poignet de l'un porte l'heure de l'autre. Un présent, l'un de deux. Leur amour se tisse donc dans le discret, dans le banal du quotidien. Et c'est là que la plume d'Anthony Chapland frappe le plus fort. Une écriture sans détour, épurée, mais d'une efficacité redoutable, qui touche juste, sans jamais forcer l'émotion. Une maîtrise qui culmine dans une finale particulièrement bouleversante, de celle qui reste longtemps en tête et qui vient confirmer à la fois le talent singulier de l'auteur et le caractère exceptionnel du roman. 5. Deux papas pour Noah par Alexandre Bégin et Béatrice Favreau, édition Bouquinbec, 2026, 14 pages. Un matin, à la garderie, les amis de Noah s'étonnent de voir que l'homme qui l'accompagne n'est pas le même qu'à l'habitude. Mais qui est ce monsieur? Le jeune garçon, amusé, leur explique simplement qu'il s'agit de son autre papa. Au fil des pages, on découvre le quotidien du jeune Noah, les jeux au parc avec papa Sandre, les parties de hockey avec papa Luc, les matins gourmands autour de délicieuses crêpes, lors du bain, puis la lecture du soir qui se termine toujours par une double ration de câlins. La lecture de l'album, ponctuée de moments à la fois tendres et amusants, s'adresse aux tout-petits et invite à des clins d'œil complices sur leur propre quotidien, souvent propices au fou rire. Elle offre également un reflet dans lequel chacun peut, à sa manière, se reconnaître. Le récit s'appuie sur des illustrations de Béatrice Favreau, au crayon et au pinceau, qui propose des compositions épurées, adaptées aux jeunes lecteurs. Les émotions y sont montrées avec clarté, ce qui les rend plus accessibles et parlantes. Un album simple et accessible pour aborder la diversité familiale avec les enfants. Celui-ci est offert chez boutique.bouquinbec.ca. C'était « Quoi faire livre, 5 suggestions de lecture » de Benoît Mignot, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue.
La brique à abeilles mise à l'essai à Verdun. Un texte de Valérie Simard, paru le 29 juin 2026 dans la presse. S'inspirant de villes britanniques qui l'ont adoptée, un maçon montréalais souhaite voir si la brique à abeilles peut aider les espèces d'ici. Un projet pilote sera lancé dans l'arrondissement de Verdun à Montréal, où on espère recruter une vingtaine de propriétaires. Sur la façade nouvellement refaite d'un duplex montréalais, une brique trouée attire l'attention. Installée à environ un mètre du sol, elle est parsemée d'une quinzaine de trous de diamètres différents, prêts à accueillir des abeilles solitaires. Contrairement aux abeilles mellifères importées d'Europe il y a plusieurs siècles, les abeilles indigènes ne vivent pas en ruche. Solitaires, elles construisent leur nid dans le sol, dans du bois mou ou dans des cavités existantes. On compte plus de 300 espèces d'abeilles sauvages au Québec. À l'instar des autres insectes pollinisateurs, les abeilles sauvages sont en déclin en raison de la destruction de leur habitat, d'une exposition aux pesticides et de la multiplication des ruches urbaines qui accentuent la compétition pour la nourriture. Dans un milieu urbain, tout est plus minéralisé. Ajouter des briques à abeilles peut pallier le manque d'endroits naturels. indique Florence Aubuchon, designer en bâtiment durable, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement et bientôt chargée de projet pour les aménagements pour pollinisateurs à l'Institut de recherche en biologie végétale, IRBV. Elle agit comme consultante dans ce projet lancé par Tommy Bouillon, président de Maçonnerie Graton et de Briques Recyc, dont les bureaux sont situés à Verdun. Tommy Bouillon a la fibre environnementale. Il a participé à l'invention et à la mise en marché d'une machine pour nettoyer et réutiliser la brique sur les chantiers. Il y a quelques années, Céline Audrey Beauregard, une enseignante devenue depuis mairesse de Verdun, lui a envoyé une publication sur la brique à abeilles en guise de clin d'œil. Ayant récemment installé cette brique chez quelques clients, le chef d'entreprise souhaite évaluer son efficacité. C'est un projet pilote, une ambition, précise-t-il. Cette initiative n'est pas portée par l'arrondissement de Verdun, mais sa mairesse encouragera les propriétaires qui planifient des travaux de maçonnerie à y participer par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux. La brique peut aussi être installée sur un muret ou dans un jardin. En Angleterre, la ville de Brighton a rendu l'installation de ce type de brique obligatoire pour les bâtiments de 5 mètres et plus. Verdun n'en est pas là, assure Céline Audrey Beauregard. D'abord, dit-elle, il faut s'assurer que cette mesure a un impact et qu'elle ne nuit pas aux abeilles plutôt que de les aider. Ma priorité est de m'assurer que ce projet soit capable d'aller collecter des données pour nous permettre de peut-être aller à une autre échelle, affirme-t-elle. Selon le fabricant B-Brick, situé en Ontario, les briques doivent idéalement être installées face au sud, à une hauteur de 30 à 100 cm du sol. Tommy Bouillon assure qu'elles n'affectent pas la structure du bâtiment et sont adaptées à l'hiver québécois. Vendues 60 $ chacune, elles sont certifiées CSA. Puisque les cavités ne traversent pas complètement la brique, il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau. L'hésitation qu'il remarque chez ses clients est davantage liée à l'esthétique. Une efficacité à démontrer. Le projet pilote permettra de voir si les abeilles aménagent dans les cavités et si certains secteurs sont plus propices que d'autres et pourquoi. Il n'y a pas de recherche qui a été faite sur ce sujet à Montréal, précise Florence Aubuchon. C'est important d'aller vérifier ça. L'impact global sur la population d'abeilles sauvages du secteur, plus complexe à évaluer, ne sera cependant pas étudié. La ville de Brighton n'a pas été en mesure de nous fournir de données sur l'effet de son règlement sur la population d'abeilles. Des spécialistes interrogés par le Guardian en 2022 avaient des avis divergents sur l'efficacité possible de cette mesure. Au Canada, environ 70 % des espèces d'abeilles sauvages nichent dans le sol. Seule une partie de nos nombreuses espèces d'abeilles utilisera ces structures, note Carly Zitter, professeur associé au département de biologie de l'Université Concordia. Elle précise que celles-ci doivent être bien conçues et nettoyées. Si elles ne sont pas entretenues régulièrement, des parasites, des agents pathogènes et des moisissures peuvent s'y accumuler, ce qui peut présenter un risque pour les abeilles qui les utilisent, ajoute l'entomologiste Gail McLinnis, directrice de Pollinature et chercheuse associée à l'IRBV. Les deux expertes sont d'avis que les briques à abeilles ne constituent pas une solution miracle. Selon elles, elles ne doivent pas remplacer des mesures reconnues comme efficaces pour soutenir les pollinisateurs sauvages, planter une grande variété de plantes indigènes, réduire l'utilisation de pesticides, laisser des zones du sol nues intactes pour les abeilles qui nichent dans le sol et préserver autant que possible les matériaux de nidification naturelle tels que les feuilles et le bois mort. Les briques et hôtels à abeilles peuvent néanmoins servir à sensibiliser la population. Il faut rappeler aux citoyens qu'avant la crise climatique, il y a la crise de la biodiversité, déclare Céline Audrey Beauregard, qui se décrit comme l'une des mairesses d'arrondissement de Montréal qui aime le moins le gazon. C'était « La brique à abeilles mise à l'essai à Verdun », un texte de Valérie Simard paru le 29 juin 2026 dans la presse.
Les vélos électriques causent des blessures plus graves. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir. Les chutes en vélo électrique causent des blessures particulièrement graves aux jambes, aux chevilles et aux genoux, constatent de plus en plus les médecins. Certains commencent même à regrouper ces blessures sous l'appellation informelle de « Lime Bike Leg », Lime étant le nom d'une entreprise de location de vélos et de scooters électriques présente un peu partout sur la planète, y compris à Montréal. Ces blessures ne sont toutefois pas propres à une entreprise en particulier. Elles semblent plutôt être liées à l'essor rapide de l'utilisation des vélos électriques. Si on regarde un peu les mécanismes des chutes et tout ça, il y a beaucoup plus de blessures graves que si on n'avait pas un vélo électrique d'impliqué, a commenté le docteur Julio Fernandez, qui est chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Compte tenu du poids des vélos électriques et des vitesses dont ils sont capables, lorsque les utilisateurs perdent le contrôle, le vélo peut tomber sur leurs jambes ou la coincer contre le sol, générant ainsi des forces de torsion et d'écrasement peu courantes avec des vélos conventionnels. « La vitesse, c'est l'aspect numéro un », a dit le docteur Fernandez. Deuxième chose, c'est le poids. Une fois qu'on chute, si le vélo tombe sur nous, il y a un effet de masse qui peut causer donc une blessure plus grave, ça c'est sûr. Certaines des blessures qui en résultent ressemblent à celles que l'on observe plus souvent lors d'accidents de moto, souligne-t-on. La plupart des blessures seraient attribuables au manque de familiarité des utilisateurs avec leur vélo électrique, particulièrement en ce qui concerne la vitesse à laquelle ils circulent en fonction des conditions du moment. Les nouveaux utilisateurs doivent comprendre que les vélos électriques, étant plus lourds, réagiront différemment des vélos conventionnels, par exemple en ce qui concerne les virages et le freinage. Ils seront aussi plus susceptibles de perdre l'équilibre à basse vitesse. « Est-ce que les gens portaient un casque ou pas de casque ?» a demandé le docteur Fernandez. « Si les gens ne font pas attention à leur propre sécurité, quand on dit trauma crânien, c'est les deux tiers des décès. Alors, on voit la cause et les faits. » Le Québec ne dispose pas de données spécifiques aux blessures subies en vélo électrique, a-t-il ajouté, mais depuis 10 ans, on recense chaque année environ 1 000 hospitalisations dues à des accidents de vélo traditionnels. Ces chiffres ne comprennent pas les blessés qui se présentent aux urgences par leurs propres moyens. Des statistiques européennes, en revanche, montrent que la fréquence d'accidents par kilomètre roulé est similaire si on compare les vélos électriques aux vélos traditionnels, mais que les blessures subies sont plus graves, notamment des traumatismes crâniens, des fractures du bassin et des fractures de la colonne vertébrale plus sérieuses, a dit le docteur Fernandez. On ne sait pas si les accidents de vélo électrique sont plus fréquents que les accidents de vélo ordinaire, mais quand ils surviennent, c'est certain que c'est plus grave, a-t-il conclu. C'était « Les vélos électriques causent des blessures plus graves », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir.